fallait qu'il chauffe un peu. Ouais. Excusez-moi pour mon léger retard. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous allons passer à la désignation d'une secrétaire de séance et je propose Christiane Vézian. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vous indique que Laurence Turchini a donné procuration à René Sauverin. Voilà. Alors, je crois que je n'ai pas de remerciements, non. Vous avez reçu le procès-verbal de notre dernière séance. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Il n'y en a pas, donc je demande de bien vouloir l'adopter. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopter l'unanimité. Et nous passons au premier point de l'ordre du jour, le rapport d'orientation budgétaire, rapporteur Liliane Diaz.
Bien. Conformément à l'article L2312-1, L3312-1 et L4312-1 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que l'article 107 de la loi NOTRe, Monsieur le maire a présenté un rapport sur les orientations budgétaires proposées pour l'année 2022, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette, ainsi que l'évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin en financement, après avoir procédé à une analyse financière rétrospective. Alors, analyse des résultats de l'exercice 2021. Afin d'avoir une vision plus juste de la situation comptable et budgétaire de la collectivité, le budget 2022 reprend les résultats de clôture de l'exercice 2021, résultats cumulés, tels qu'ils doivent ressortir du compte administratif, conforme au compte de gestion du comptable. Les résultats de clôture du budget principal se présentent comme suit. Un excédent de fonctionnement de 228 436,53 euros. Un excédent cumulé d'investissement de 70 019,26 euros, tenant compte de l'excédent reporté de 2020 de 164 652,03 euros. Ce qui fait soit une balance de clôture excédentaire de 298 455,79 euros. Alors, en section de fonctionnement, en dépenses, on est à 5 375 955,51 euros, soit une augmentation de 2,75% par rapport à l'exercice 2020, qui était de 5 231 145,61 euros. Charges à caractère général, chapitre 11. On retiendra pour le détail une augmentation des charges à caractère général qui s'élève à 1 322 593,52 euros, soit plus 4,8% par rapport à 2020. Mais l'objectif fixé au budget primitif 2021 de stabiliser ses dépenses aux environs de 1 035 a été plus qu'atteint. Il est à noter qu'en 2020, ces dépenses avaient diminué de 7%, notamment en raison d'un certain nombre de dépenses limitées par la crise sanitaire. Pour mémoire, le chapitre 11 affiche un total de dépenses de 1 364 012,16 euros en 2019. Pour 2021, les éléments significatifs sont les suivants. Eau et assainissement, diminution importante à 35 961,87 euros. On était en 2020 à 85 989,89 euros, mais l'exercice 2020 avait supporté des régularisations importantes d'exercices antérieurs. On avait payé des factures de 2018 et 2019. En gaz, après deux années de baisse consécutive, de plus de 12 000 euros, l'exercice 21 connaît une hausse de plus de 7 500 euros pour atteindre 36 142,25 euros, hausse due à un décalage de facturation au niveau de la cuisine centrale. L'électricité, l'an passé avait connu une diminution de 26 500 euros liée à la fermeture de certains bâtiments durant les confinements, mais également aux effets bénéfiques du passage en LED d'un certain nombre de bâtiments et éclairages extérieurs depuis plusieurs années. En 2020, on a fait l'école des amandiers, entre autres. Une hausse de 5 000 euros portée en 2021 cette ligne à 201 397,34 euros. En carburant, on est à plus 3 000, c'est la hausse des prix. Alimentation, la cuisine centrale, moins 26 609 en 2020, qui était dû à la baisse du nombre de repas servis en raison de la crise sanitaire. En 2021, ces dépenses atteignent 121 275,74 euros, liées à la reprise d'une activité quasi normale et au surcoût lié à la mise en place de la loi Egalim. Vous savez ce que c'est, 50% de produits durables et environ 20% au moins de produits bio. Fourniture non stockée, plus 4 000 euros pour atteindre 6 679 euros. Crise sanitaire, centre de vaccination. Vêtements de travail, 12 188, plus 7 000 euros. C'est le renouvellement des colis qui avaient été mis en pause l'an passé pour la crise sanitaire, pareil. Fourniture d'entretien, diminution de 5 000 euros, plus 10 800 en 2020, crise sanitaire. Entretien des voiries, plus 14 000. Curage des réseaux pluviaux, 8 583 euros, plus 4 500 par rapport à 2021. On a eu une campagne poussée sur ces travaux. Formation des agents, on retrouve le niveau habituel de 14 000 euros, environ 5 800 euros en 2020, pareil, crise sanitaire. Fêtes et cérémonies, quasi stable par rapport à l'exercice précédent, avec 36 500 euros, annulation de la balade gourmande, à mettre en relation avec la perte concomitante en recettes. Charge de personnel, elle s'élève à 3 153 426,40 euros, soit une hausse de 20,7% par rapport à l'exercice 2020, 3 120 688 euros. Hausse notamment liée aux avancements d'échelons, au reclassement indiciaire et à la revalorisation annuelle du régime indemnitaire. Les nombreux remplacements d'agents absents que nous avons dû effectuer en raison de la crise sanitaire, notamment dans les services enfance, jeunesse et crèche, expliquent également cette hausse des dépenses qui trouve cependant sa compensation en recettes de fonctionnement avec le remboursement des assurances. La prime de fin d'année instaurée en 2018 représente pour 2021 un montant total de 27 000 euros qui est stable. Autre charge au chapitre 65, 495 767,46 en 2021, soit une diminution de 5 500 euros par rapport à 2020, malgré l'augmentation importante, près de 50 000 euros en plus, du forfait communal à l'école Saint-Andéol, du fait de l'obligation légale de scolarisation à 3 ans, cependant compensée par la baisse de subvention au CCAS du fait des annulations des festivités seniors en 2020 et 2021, ainsi que la baisse des subventions aux associations. En atténuation de produits au chapitre 14, en diminution de 15 000 à 90 503 euros. Charges financières, chapitre 66. Alors là, il y a une petite coquille. On est à 45 078 27. Vous le trouvez sur le tableau des emprunts. Soit une diminution de 3 000 euros par rapport à 2020, due au solde d'emprunt jusque-là en cours, et donc diminution des intérêts remboursés. Dotation aux amortissements, au chapitre 42, 268 000 euros, opération d'ordre. En recette, on est à 5 604 392,04 euros, soit une légère hausse de 45 326,89 euros, c'est-à-dire 0,82% en plus par rapport à 2020. Les remboursements des assurances sur rémunération du personnel ont diminué d'environ 15 000 euros des fins d'arrêt de longue durée. Les produits des services ont nettement augmenté, plus 75 000 euros, liés à la reprise à un niveau normal des services cantine et périscolaires. Les contributions directes au chapitre 73 ont diminué de 54 508 euros en 2020 en raison des opérations de compensation que l'on retrouve au chapitre 74. Au 73, toujours, la répartition des droits de mutation à titre onéreux continue d'augmenter en 2020 à 244 651 euros, soit plus 16 000 euros. Le chapitre 74, dotation et participation, reste quasiment stable, moins de 2 000 euros, à 733 444 euros, malgré une DGF à zéro. Perte nette de 420 000 euros depuis 2013. Les compensations liées aux exonérations fiscales octroyées par l'État et à la suppression de la taxe d'habitation s'élèvent à 180 000 euros. Au chapitre 75, les produits de gestion courante, loyer, location de salle, rachat d'électricité photovoltaïque à la crèche, sont en hausse de 14 500 euros. Donc, dans un contexte budgétaire et financier toujours difficile, et la crise sanitaire qui s'est poursuivie, la commune réussit à dégager un excédent de fonctionnement de 228 436,53 euros, moins 99 000 euros par rapport à 2020. Cet excédent constitue l'autofinancement ou l'épargne brute du budget 2022 et sera versé à la section d'investissement en recettes avec couverture prioritaire de l'annuité d'emprunt qui doit réglementairement être couvert par des ressources propres. En section d'investissement, en dépenses, 1 748 374,78 euros, en recettes, 1 653 742,01 euros. À noter qu'il s'agit tant en dépenses qu'en recettes du budget d'investissement le plus important de la commune depuis 2015. Ce qui donne, après le report d'excédent cumulé de 2020, 164 652,03 euros, un excédent de clôture de 70 019,26 euros, compte tenu des restes à réaliser, en dépenses 405 694,84 euros et en recettes 255 798,02 euros, le résultat définitif en investissement est de moins 79 879,56 euros. Les principales dépenses en section d'investissement 2021 en TTC. Participation numéro 1 à la commune, de la commune au SDIS pour la construction de la caserne de pompiers commune de Sérignan, 40 000 euros. Travaux dans les bâtiments scolaires, 116 388,24 euros, donc 100 000 euros environ pour la climatisation et la VMC des amendiers. Travaux dans les autres bâtiments communaux, 85 500 euros. Par 2021, des travaux d'aménagement intérieur des 4 logements de l'entrée de ville, 56 825 euros sur un budget de 250 000 euros. Travaux voiries et réseaux, 114 300 euros, dont 37 000 pour la réfection du chemin de Vaqueras et 25 000 pour la campagne 2021 de réfection des bornes incendies. Renouvellement et acquisition de matériel, écoles, services municipaux, etc., 53 500 euros. Travaux d'entrée de ville, finalisation bâti et travaux aménagement, place et voirie, maîtrise d'œuvre, 1 079 448 083 euros. Voir détail ci-dessous, vous l'avez en dessous, je ne vous le lirai pas. Restauration d'un tableau de l'église paroissiale, 12 520 euros. Et le remboursement du capital de la dette, 188 500 euros. On vous a remis le bilan financier des travaux de l'entrée de ville. Les principales recettes en section d'investissement 2021, 514 000 euros de subventions pour différents projets, État, région et département, 164 000 euros au titre de la FCTVA, le fonds de compensation, 108 300 de taxes d'aménagement, permis de construire, plus 13% par rapport à 2020, plus 55% par rapport à 2019 et plus 230% par rapport à 2018. Un excédent de fonctionnement 2020, 327 519 euros, 164 652 euros excédent d'investissement 2020 reporté et 223 500 euros dotation aux amortissements, opérations d'ordre. Les orientations 2022. En section de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, charges à caractère général au chapitre 11. L'objectif 2022 sera de maintenir le niveau de ces dépenses aux environs de 1 350 000, malgré les hausses importantes des prix, notamment pour les dépenses d'énergie et de carburant, avec pour l'instant une DF à plus 30%. Les économies réalisées par le passage en LED de plusieurs sites communaux vont être poursuivies et amplifiées afin d'atténuer la hausse du coût de l'énergie électrique. Le nouveau marché d'approvisionnement en gaz fait apparaître une baisse de 11% de tarifs. Le budget alimentation va continuer d'augmenter du fait de la montée en puissance des produits bio et locaux. Les nouveaux marchés concernant les téléphonies fixes et mobiles attribués en 2021 doivent engendrer une stabilisation, puis une baisse des dépenses, notamment par le passage à la fibre des bâtiments communaux et du regroupement des sites opérés. Moins d'abonnements. La crise sanitaire étant normalement passée, le budget fêtes et cérémonies va retrouver son niveau de 2019 avec la part importante liée à la balgourdemande, en tout 80 000 euros. Les frais de nettoyage devraient diminuer avec la fin des prestations liées au protocole sanitaire. La commande publique continue d'être suivie de très près par le service finance comptabilité, le chef de service et la direction générale grâce à des outils de comptabilité analytique précis mis en place ces dernières années. Le personnel communal au chapitre 012. De nouveaux reclassements réglementaires, avancement d'échelons et de grades ainsi que l'indemnité inflation prévue en 2022 ainsi que l'effet GVT font que les dépenses seront encore en hausse même si le plafond budgété en 2022 ne sera pas augmenté puisque nous sommes à 3,23 millions d'euros au maximum. En charge de gestion courante au chapitre 65. Le chapitre connaîtra une nouvelle hausse en 2022 du fait de l'augmentation des subventions aux associations, reprise des activités à un niveau normal, et de la subvention communale au CCAS qui devrait passer de 42 543 euros à 63 956 euros du fait de la reprise prévisible des événements festifs pour les seniors. Les contributions aux divers syndicats, RAO, CEF, CESDIS, restent stables. La contribution au FPIC, Fonds national pour l'allocation des ressources intercommunales et communales, est lui aussi transférée au chapitre 014, atténuation de produits, et devrait avoisiner les 100 000 euros, à moins qu'il ne soit pris en charge par l'intercommunalité. Les dépenses prévisibles liées aux intérêts d'emprunt, chapitre 6611, seront de 48 000 euros environ. L'objectif 2022 reste donc de maintenir les dépenses réelles de fonctionnement à environ 5,6 millions d'euros. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, l'essentiel des recettes communales est constitué par le produit fiscal, chapitre 73. La revalorisation par l'État des bases fiscales n'est pas encore connue. Les taux communaux resteront identiques aux années antérieures, soit pour la taxe sur le foncier bâti 20,80% et pour le foncier non bâti 57,11%. Ces taux sont dans la moyenne nationale et départementale de la strate. Ainsi, l'augmentation du produit fiscal ne proviendra que d'un effet base. La recette fiscale 2022 devrait se situer aux environs de 1,8 million d'euros en tenant compte des différentes compensations liées à la réforme sur la taxe d'habitation et la valeur locative des locaux professionnels. Concernant les autres recettes de fonctionnement, le montant précis des dotations de l'État, DGF, DSR, n'est pas connu à ce jour, mais depuis 2021, la commune ne perçoit plus de la dotation globale des fonctionnements. La dotation de solidarité rurale serait de l'ordre de 62 000 euros. Le montant de l'attribution de compensation versée par la communauté de communes sera de 2,15 millions d'euros. Les remboursements des assurances personnelles et biens estimés à 125 000 euros. Les diverses redevances occupation du domaine public, 36 000 euros. Le produit des loyers, appartements, estimé à 65 000 euros. Le produit des services gérés en régie, restauration municipale, crèche, CLSH, salle communale, etc., 400 000 euros. La régie fête ses cérémonies, 40 000 euros, dont la recette balade gourmande. Les participations de nos cofinanceurs SCAF et MSA, 500 000 euros. Les participations et subventions d'autres communes et collectivités territoriales, 20 000 euros. La taxe additionnelle sur droit de mutation à titre onéreux que l'on peut estimer à environ 225 000 euros en 2022. On peut donc envisager des recettes de fonctionnement stables en prévisionnel avec 5,6 millions d'euros. La section d'investissement, les dépenses d'investissement. Après l'achèvement de l'ensemble des travaux, l'entrée de ville, l'exercice 2022 sera une année de pause dans les gros investissements afin de préparer les futurs chantiers importants à compter de 2023. Les petits et moyens investissements visant à l'entretien des bâtiments et voiries ainsi que ceux permettant de réaliser des économies d'énergie ou d'optimiser les recettes seront privilégiés. Au titre des restes à réaliser, comprenant en grande partie le reliquat des travaux sur les appartements de l'entrée de ville, il convient de prévoir 406 000 euros. Parmi les autres dépenses d'investissement pour 2022, participation numéro 2 de la commune au SDIS, 40 000, révision complète du PLU, 10 000 euros, isolation de l'immeuble des Amandiers et rafraîchissement d'un logement, 120 000 euros, remise aux normes de bornes à incendie suite du programme, 20 000 euros, reprise voirie, signalisation, etc., 90 000 euros, éclairage public, mise en conformité, passage en LED, 40 000 euros, études et diagnostics en prévision de la réfection de l'avenue du Mont Ventoux, rond-point des Amandiers et chemin battu, 50 000 euros. Il faut aussi noter le montant de la nuitée en capital de la dette, soit 191 858 euros. Au total, les dépenses réelles d'investissement inscrites au budget primitif 2022 devraient avoisiner les 1,05 millions d'euros, reste à réaliser compris. En ce qui concerne les recettes d'investissement, les recettes d'investissement proviennent des ressources propres de la commune par l'affectation du résultat 2021 provenant de la section de fonctionnement, soit 228 436,53 euros, de la taxe d'aménagement estimée à 122 000 euros, de la recette estimée due au titre de FCTVA 228 000 euros et diverses opérations d'ordre entre sections pour un montant d'environ 150 000 euros, dotation aux amortissements. Le virement de la section de fonctionnement, chapitre 21, a précisé 70 000 euros en 2021. Il reste à réaliser en 2021 en recettes d'investissement 255 798,02 euros, essentiellement les subventions accordées par l'État, la région et le département. Au total, les recettes d'investissement inscrites au budget primitif 2022 seront de 1,05 million d'euros, reste à réaliser compris. Plusieurs demandes de subventions étant en cours d'instruction ou allant être demandées auprès de l'État, de la région et du département, une décision modificative viendra compléter les recettes et dont les dépenses d'investissement pour les projets communaux. Ensuite, vous avez le tableau de l'analyse de la dette. Je ne vais pas vous le lire, à moins que vous souhaitiez que je reprenne au moins la dette du capital pour 2022, qui est 1 743 747,47 euros. Le capital à payer sur la période, ce sera de 191 858,17 euros. Et les intérêts à payer sur cette période, 42 480,73 euros. Cours de la dette au 31 décembre 2020, 364 euros, 404 en 2019 par habitant, pour une moyenne de la strate de 728 euros par habitant. Dernier chiffre connu au 1er février 2022. Le calcul de la capacité d'autofinancement brut, le RRF moins DRF, recettes réelles de fonctionnement moins les dépenses réelles de fonctionnement, 5 604 392,04 moins 5 375 955,51 euros, ça donne 228 436,53 euros. L'encours de dette divisé par la capacité d'autofinancement brut, ça donne 1 743 747,47 euros divisé par 228 436,53 euros, c'est égal 7,6. Notre dette peut donc être remboursée en 7,6 ans au vu de notre actuelle capacité d'autofinancement. La moyenne de la strate est de 4,6. Pour rappel, lors de l'exercice 2020, nous étions à 5,1 années. Notre capacité de remboursement de la dette s'allonge principalement en raison de la baisse de notre autofinancement liée à l'augmentation des dépenses de fonctionnement associée à une augmentation, à une stagnation des recettes. Il est donc fortement déconseillé de souscrire de nouveaux emprunts dans les années à venir, et ce, tant que l'autofinancement ne sera pas revenu à un niveau suffisant, c'est-à-dire au minima 400 000 euros.
Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Savin.
Oui, ça marche. Je vais reposer la même question, enfin faire une notation par rapport à ce que j'ai fait à la commission hier. En page 4, bas de page, résultat définitif en investissement, vous marquez moins 79 879 56. Et en première page, vous mettez plus 70 019 26, ce qui pour moi ne correspond pas. Parce que la balance de clôture à ce moment-là est beaucoup inférieure à le chiffre annoncé.
Alors, c'est ce que je vous ai expliqué en commission des finances. C'est strictement la présentation du budget en termes d'investissement qui est la présentation comptablement réglementaire. C'est-à-dire que, notamment en termes d'investissement, on regarde les budgets sur trois années, c'est-à-dire l'année N, qui est l'année centrale, l'année N-1, en investissement, il y a toujours le report du budget précédent en investissement, du compte administratif précédent en investissement, qu'il soit positif ou négatif. En l'occurrence là, on a reporté un budget 2020 sur l'exercice 2021 qui était positif de 164 000 euros. Et ensuite, sur l'année N plus 1, on tient compte des restes à réaliser, puisqu'il y a des opérations qui sont engagées sur l'exercice N, mais qui ne sont pas réalisées pour diverses raisons, soit parce que les opérations ont été prises tardivement, ont été les travaux ou les services ont été commandés tardivement dans l'année, soit en recette parce que les travaux n'étaient pas terminés dans l'année, donc les dossiers de demande d'obtention des subventions ne sont pas partis, etc. Enfin, voilà, ce qui explique qu'il y a des restes à réaliser. Donc en première page, vous avez le budget d'investissement brut sur l'exercice, tenant compte du report de l'année N-1. Et en page 4, oui, c'est ça, vous avez le bilan comptable avec les restes à réaliser, c'est-à-dire les restes à réaliser qui seront imputés sur l'exercice 2022, soit 405 000 en dépenses et 255 000 en recettes. Voilà. Le tout est de tenir l'équilibre sur cette comptabilité sur 3 ans. C'est pour ça aussi que l'on dit que pour l'année 2022, il y aura une pause en termes d'investissement, à la fois pour ne pas se retrouver avec un budget d'investissement, enfin un bilan d'investissement qui soit négatif, même si on n'investit pas en investissement, c'est pas dramatique, ça prouve qu'il y a de l'investissement et que la commune agit, mais aussi pour pouvoir permettre les investissements des années suivantes. En gros, c'est le rythme budgétaire et comptable qu'a toujours suivi la commune de Camaret. On a fait la même chose après la grosse année d'investissement de 2015. En fait, c'est une respiration. Le tout est de tenir l'équilibre sur les l'échéance des 3 années. Voilà. Et l'ancienne municipalité, ma prédécesseure, conseillait la même chose à l'ancienne municipalité.
Merci. Monsieur Lomani.
Bonsoir à tous. Je vais voir sur le personnel, monsieur le maire. Je suis inquiet au niveau de l'évolution des charges. En 2018, vous aviez 2 860 000 de personnel. Aujourd'hui, vous en êtes à 3 100 et en 2022 à 3 230 selon vos prévisions. Ce qui fait une augmentation de plus de 10% sur votre mandat. Je m'inquiète en voyant ce résultat-là dont on vient de parler et l'augmentation des charges de personnel. Dans ces charges de personnel, vous avez retiré la partie des prestataires pour le nettoyage des écoles, qui, normalement, devrait venir se rajouter. Donc, je suis inquiet et j'espère que vous allez pouvoir me donner des explications, me rassurer sur cette inquiétude et cette augmentation assez forte des charges salariales.
Je vais laisser M. le DGS répondre et puis je continuerai. Alors, les charges, vous parlez des charges de nettoyage externalisées ? J'ai pas compris.
Au départ, je parle de l'augmentation des charges de personnel qui étaient en 2018 de 2,8 millions et qui sont en 2021 de 3,5 millions.
Oui.
Donc, voilà. Et qui seront en 2022 à 3,230 millions.
Oui.
Auxquels il faut rajouter l'externalisation des charges. Alors, c'est pas des charges de personnel, on est d'accord, mais c'est des charges liées à du personnel. Et donc, je suis inquiet sur cette augmentation assez importante, qui est de plus de 10%. Voilà.
Donc, oui. Alors, ce qui est externalisé, c'est pas compté dans les charges de personnel. Après 3 230, c'est le prévisionnel. Et comme on le dit, déjà, je peux vous dire que ce sera 3 210, puisque, en fait, on est toujours très large. Vous voyez, en 2021, on avait prévu en charge de personnel de 3 230 et on a réalisé de
de 3 153. Là, on prévoyait de mettre le même prévisionnel, 3 230. Finalement, on va diminuer un peu le prévisionnel. Ça n'est que le prévisionnel. Après, c'est certain qu'il y a une tendance à l'augmentation des charges de personnel. Même si on ne fait rien, même si on ne recrute pas, les charges de personnel augmentent. Pourquoi ? Par exemple, cette année, donc déjà il y a l'effet, le fameux effet GVT qui fait que le personnel qui prend de l'ancienneté voit par les règles indiciaires, etc., ses salaires augmenter. Mais en plus, depuis quelques années, l'État, ce qui ne se passait pas auparavant, nous impose des reclassements, c'est-à-dire qu'ils imposent à la fonction publique territoriale de s'aligner sur les réformes qui sont faites dans la fonction publique d'État. Et ces reclassements ont un coût non négligeable. Par exemple, je peux d'ores et déjà vous dire que pour le budget 2022, on a déjà une augmentation de 18 à 20 000 euros par le reclassement qui fait que les auxiliaires de puériculture, nos agents de la crèche qui sont auxiliaires de puériculture, ont passé de la catégorie C à la catégorie A. Ça, les communes n'y peuvent rien. Elles ne peuvent que l'acter et appliquer le régime indiciaire qui correspond à cet avancement de grade qui nous est imposé par la loi. On a eu la même chose avec la filière médico-sociale l'an passé. Il y a eu la même chose sur des certaines catégories des filières techniques. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Même si on ne recrute pas, même si on n'augmente pas les primes de nos agents, si on fige notre masse salariale à zéro, de toute façon, elle augmentera par l'effet GVT et par, notamment depuis 3 ou 4 ans, par les reclassements qui nous sont imposés par l'État.
Vous êtes en train de m'expliquer qu'il n'y aura pas d'autre solution que d'augmenter les impôts, donc.
Après, ce qui m'inquiète, après, on peut faire période... des économies sur d'autres postes. Et puis, il y a aussi des possibilités de mutualisation, ce que nous avons fait pour le service urbanisme, par exemple. Et je sais que les élus de l'intercommunalité discutent sur d'autres possibilités de mutualisation, voire de transfert de compétences qui permettront non seulement de mutualiser les moyens, ce qui est le but des intercommunalités, mais également de rendre de meilleurs services sur le territoire de l'intercommunalité.
Oui, moi je voulais ajouter que, puisque vous l'avez évoqué, nous ferons tout pour ne pas augmenter les impôts. D'ailleurs, depuis que je suis élu, on ne l'a jamais fait. Et cette fois-ci, ce sera encore le cas, bien que nos finances soient de plus en plus tendues, notamment en raison d'une baisse des recettes de fonctionnement depuis, on peut prendre 2014, la DGF, qui est la dotation globale de fonctionnement qui était de 400 000 euros en 2014, elle est de zéro aujourd'hui. C'est quand même conséquent, vous en conviendrez. Et pour en revenir aux dépenses de personnel, il y a aussi, par rapport à 2018, l'instauration de cette fameuse prime de fin d'année, qui est relativement stable, mais qui représente une portion quand même non négligeable de l'augmentation des dépenses de personnel. Il y a aussi le fait que les agents passent des concours ou sont nommés au grade supérieur. Tout ça, ce sont des choses qui sont humainement et sur le plan de l'organisation administrative logique et tout à fait défendable et louable. C'est tant mieux que les agents se forment et qu'ils préparent des concours pour progresser dans leur carrière. C'est une très bonne chose. Mais cela a un coût dans les dépenses de personnel. Depuis peu, on a deux nouveaux agents en catégorie A. Donc tout ça a un coût non négligeable. En fait, la façon la plus efficace de diminuer sensiblement et réellement les dépenses de personnel, c'est de diminuer les effectifs. Mais là, comme vous le savez, c'est pas la chose la plus facile. On est dans le statut de la fonction publique territoriale. C'est extrêmement compliqué, bien sûr. Quelque part, c'est très protecteur pour les agents. Mais pour la mairie qui est employeur, ça manque de souplesse. Donc, comme l'a évoqué Yann Bali, il peut y avoir aussi des dispositifs de mutualisation pour certains services. voire de transfert partiel de certains autres services qui sont à l'étude avec la CCAOP.
Oui, je comprends. Vous m'expliquez la situation que je redoute. C'est-à-dire que l'augmentation du personnel qui est certes lié à l'amélioration des qualités du personnel, de la formation, etc., je l'entends tout à fait. Mais dans le budget de la mairie, les recettes, vous le dites vous-même en fin de ce robe, sont en difficulté, n'augmentent pas. Donc, si on gère un bon père de famille, il serait bon, quand même, de tenir compte de ces augmentations et de trouver des recettes, et peut-être pas de faire des investissements ou des emprunts démesurés.
Alors justement, on a conclu de façon très lapidaire et très sèche sur les emprunts, à savoir qu'il était fortement déconseillé d'en souscrire. C'est pas la voie que nous choisissons en effet. Ce n'est pas non plus l'augmentation de la pression fiscale compte tenu des problèmes de pouvoir d'achat que connaît une partie grandissante de notre population. Et c'est pas fini. Là, depuis quelques semaines, on voit une inflation, par exemple des bons alimentaires du CCAS. Ça prouve que déjà il y a certains de nos administrés qui commencent à avoir de sérieuses difficultés à boucler leur fin de mois. Vous en connaissez tous les causes. Mais je crains que malheureusement le pire soit devant nous. Donc on prévoit aussi dans notre budget ce genre de dépenses qui sont indispensables, ces dépenses de solidarité. Et par rapport à ce que vous évoquez au niveau de l'équilibre de nos finances, croyez-moi, on étudie toutes les solutions pour faire diminuer ce genre de dépenses et pour compenser cette baisse des recettes, voire, c'est aussi une voie sur laquelle j'insiste beaucoup, augmenter nos recettes de fonctionnement, notamment. Mais ça va nécessiter plus tard de faire aussi des dépenses d'investissement.
Je terminerai en vous disant que heureusement que nous avons la dotation de la CCAOP, parce que sinon nous serons en grande difficulté, vraiment.
La dotation de la CCAOP, ce que vous dites est un petit peu juste, mais aussi un petit peu faux, parce que la dotation de la CCAOP, c'est une attribution de compensation qui compense le montant de nos recettes fiscales que nous avions avant la mise en œuvre de l'intercommunalité. Si nous n'étions pas en intercommunalité aujourd'hui, nous aurions des recettes fiscales bien plus importantes, parce que cette attribution de compensation, elle a été figée, le montant a été figé au moment où Camaré a intégré la CCAOP. Donc on ne profite pas, par exemple l'implantation du compteur de Maltilde, on en profite que de manière très indirecte. On ne profite pas en tout cas de toutes les taxes liées, toutes les taxes qui ont remplacé la taxe professionnelle. Ça c'est la CCAOP qui en profite. Alors on a la taxe d'aménagement, on a d'autres recettes, mais qui ne sont pas comparables au niveau de leur montant. Comme pour la taxe d'habitation qui est figée à 2017, même si il y a de nouveaux habitants qui s'installent sur la commune, le montant que nous allons recevoir de l'État est figé au nombre d'habitants qu'il y avait à Camaré en 2017.
Oui, juste ma remarque, mon inquiétude, vous l'avez compris dans votre réponse, je l'entends, je n'y vois pas la solution, mais j'entends que vous avez entendu mon inquiétude, donc je vous en remercie, mais c'est vrai qu'il va falloir... Il va falloir calculer différemment, d'autant plus que les charges vont augmenter sur tout ce qui est énergie. Donc il faut vraiment l'anticiper. Je vous remercie.
Est-ce qu'il y a d'autres... Monsieur Bancorsini ?
Oui, juste une précision. Concernant le poste 75, vous précisez une augmentation de 14 500. Je voulais savoir quel est le montant que représente ce que nous récupérons sur les panneaux photovoltaïques de la crèche, notamment. Je crois qu'il y en a peut-être ailleurs, mais sur la crèche, je suis sûr.
24
000
euros.
24
000,
c'est 14 000, en fait. 85 000. Le montant total est de 14 et de combien le montant? C'est de 80 000, 82 000 le montant total? Ce que rapporte
le produit au chapitre 75.
Le produit sur
les recettes.
On a 14 500 d'augmentation. Sur quelle somme?
Sur quel montant, oui.
Sur quel montant?
Alors, Dans le DOB, on met au chapitre 75, sont en hausse de 14 500. Sur quel montant de base ? Quel est le produit du chapitre 75, autrement dit ?
Et ça,
vous l'aurez au compte administratif. Vous l'aurez précisément au compte administratif, voilà, mais bon, on peut vous donner une estimation.
Vous avez pu me donner le montant des recettes. Non, tout simplement, c'est que si c'est une recette intéressante.
C'est un montant de
2389. C'est ça. Moi, je le chiffre. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Vous pouvez m'embaucher comme DGS si vous voulez, parce que je m'appelle que je suis en retraite, ça va faire. Non, l'intérêt c'était de savoir quel était ce produit et qu'est-ce que ça rapportait, et si éventuellement ce n'était pas une solution qu'on pouvait envisager pour le développer sur la commune, puisque c'est une façon d'avoir des recettes. Hein.
Voilà. Alors nous avons aussi effectivement des pistes pour améliorer nos équipements photovoltaïques. On a quand même une grosse interrogation, puisqu'il y aurait un arrêté ministériel d'octobre 2021 qui interdirait tout subventionnement public des installations photovoltaïques. Voilà, donc cet arrêté